Radio Prague, les informations.
Le Parti civique démocrate a interrompu les négociations avec la social-démocratie sur la formation d'un nouveau gouvernement. Prague veut accueillir le siège du système de navigation Galileo. L'Autriche est prête à porter plainte contre la Tchéquie en rapport avec la centrale nucléaire de Temelin. L'Odès a interrompu les négociations avec la social-démocratie sur la formation d'un gouvernement de coalition qui devait comprendre en outre les chrétiens-démocrates. Il revient à son premier projet, à savoir un gouvernement composé de trois partis, l'Odès, les chrétiens-démocrates et les Verts. Si ce dernier parti est prêt à négocier, Jiří Čunek, chef du parti chrétien-démocrate, estime qu'un gouvernement basé sur des déserteurs n'a pas de sens. Selon le président Václav Klaus, les négociations se retrouvent au point zéro. Le premier ministre Mirek Topolánek a décidé de quitter le sommet de l'Union européenne à Bruxelles pour rentrer dans le pays avant encore sa fin prévue pour ce vendredi après-midi. C'était la toute première participation de Topolánek à un sommet de l'Union européenne dès sa nomination au poste de chef de gouvernement. L'aspiration de Prague d'accueillir le siège du système de navigation Galileo sera évoquée au sommet de l'Union européenne par le chef de la diplomatie tchèque Alexander Vondra. Prague est l'une des 11 villes qui déposent leur candidature. Il s'est également exprimé en faveur du renouvellement des négociations avec la Serbie. Le Parlement autrichien a adopté une résolution appelant le gouvernement de Vienne à porter plainte contre la République tchèque en rapport avec la récente homologation de la centrale nucléaire de Temelin au cas où Prague ne présenterait pas de preuves d'une sécurité renforcée de la centrale. Une réunion solennelle qui aura lieu mardi prochain sera consacrée au 10e anniversaire de la naissance du Sénat tchèque. Une intervention sera prononcée à cette occasion par le président Klaus. Le compositeur tchèque Otmar Macha, auteur d'œuvres symphoniques et de partitions pour le film et la télévision, est mort à l'âge de 84 ans. Il puisait son inspiration dans la tradition tchèque et dans la chanson populaire morave. Pour une année au moins, la Philharmonie tchèque n'aura pas de chef d'orchestre. C'est ce qu'a annoncé son directeur Václav Riedelbauch. L'actuel chef d'orchestre Zdeněk Macal, dont le contrat aura expiré au milieu de l'an 2008, compte pourtant collaborer étroitement avec la Philharmonie même à l'avenir. Météo, ce vendredi, le ciel demeurera encore à moitié dégagé et les températures diurnes se situeront autour de 10 degrés. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à l'écoute de Radio Prague et de l'actualité en République tchèque. La politique occupera une place importante dans cette émission avec la poursuite des négociations gouvernementales et l'adoption du budget de l'État pour 2007. Nous évoquerons également la loi sur la chasse qui fait l'objet de controverses ainsi que la reconstruction d'une partie de l'un des principaux hôpitaux de Prague. Enfin, nous terminerons avec la fin des travaux de la station polaire tchèque en Antarctique. Toute l'équipe de la rédaction française vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Les négociations pour la formation d'un gouvernement de coalition formé du Parti civique démocrate, ODS, du Parti social-démocrate et des chrétiens démocrates ont échoué. Vainqueur des élections législatives en juin dernier, l'ODS du Premier ministre Mirek Topolánek a annoncé mercredi mettre un terme aux discussions avec les sociaux-démocrates. Et rien n'indique que le pays puisse sortir de l'impasse politique dans laquelle il se trouve depuis désormais plus de 6 mois. Officieusement, les leaders des trois partis s'étaient pourtant entendus tant sur le programme que sur la répartition des sièges ministériels. Finalement, ce sont les responsables régionaux qui, lors de la réunion du conseil exécutif de l'ODS, ont fait capoter l'affaire, comme l'a expliqué lui-même Mirek Topolánek.
Je dois dire que j'ai informé dans le moindre détail le conseil exécutif de l'avancement des négociations, tant pour le programme que pour le plan du prochain gouvernement. Et finalement, étant donné les conditions, le conseil exécutif a préféré ne pas poursuivre les négociations avec les sociaux-démocrates. Vous me demandez ce que cela veut dire et je vous réponds que l'on verra dans les prochains jours.
Concrètement, les responsables régionaux n'ont pas accepté que l'impôt unique, qui était pourtant le point principal de la campagne préélectorale de l'ODS, principale formation de droite du pays, ne figure pas dans le programme de la coalition tripartite. En outre, le nombre de ministères qui auraient été dirigés par des sociaux-démocrates leur semblait trop important. Mirek Topolánek envisage donc désormais de reprendre d'énièmes négociations pour la constitution d'un cabinet composé de membres de son parti, des chrétiens démocrates et des Verts. Une coalition qui ne dispose toutefois que de la moitié, très précisément, des 200 sièges à la chambre basse du Parlement. Pour obtenir la confiance des députés, l'ODS envisage donc le soutien de quelques membres de la social-démocratie. Certains d'entre eux, fatigués comme le reste de la population par la longueur des négociations, pourraient en effet déserter leur parti afin que le pays dispose enfin d'un gouvernement stable. Reste que Jiří Čunek, le président des chrétiens démocrates, fraîchement élu samedi dernier, a d'ores et déjà annoncé qu'il excluait toute participation à un gouvernement dont l'existence dépendrait du soutien de déserteurs d'autres partis. Bref, tout laisse à penser que la République tchèque ne possédera pas de nouveau gouvernement stable et ayant obtenu la confiance de la majorité des députés avant la fin de l'année. Politique toujours, bien que le pays ne dispose pas de gouvernement stable depuis plusieurs mois, les députés ont adopté mercredi le budget de l'État pour 2007. Un budget critiqué qui prévoit un déficit de 91,3 milliards de couronnes. Selon le ministre des Finances, Vlastimil Tlousti, le déficit réel final devrait toutefois être encore plus important. Des chiffres dont l'ampleur inquiète fortement les économes. Des recettes d'un montant de 949,5 milliards de couronnes et des dépenses d'un peu plus d'un billion. Tel est le budget prévu pour l'année prochaine, un budget qui, chose rare et curieuse, a été adopté sans que le ministre des Finances n'ait voté pour. En effet, Vlastimil Tlousti, du Parti civique démocrate, était opposé à l'augmentation du déficit de plus de 6 milliards de couronnes afin de financer différents projets dans les régions. Un détail cependant selon les économes qui s'entendent pour dire que le budget adopté éloigne encore un peu plus le pays de la mise en place d'une réforme des finances publiques, pourtant indispensable. En 2007, le déficit devrait représenter 4% du produit intérieur brut. Principal économe de la Raiffeisen Bank et ancien ministre des Finances, Pavel Mertlik, s'inquiète comme l'ensemble de ses collègues de cette évolution.
Une économie dont le taux de croissance tourne autour de 5% depuis déjà plusieurs années ne devrait pas avoir des déficits, mais devrait plutôt avoir des excédents ou au moins présenter un bilan dont les recettes et les dépenses seraient égales ou proches de zéro. L'économie doit être prête pour les périodes où la croissance sera moins forte, des périodes qui, dans une économie globale cyclique, arriveront forcément tôt ou tard.
La Cour constitutionnelle vient de refuser l'abolition de plusieurs dispositions controversées de la loi sur la chasse. Les adversaires de ces dispositions avaient porté plainte et affirmé que la loi donne plus de pouvoir aux organisations des chasseurs qu'aux propriétaires de biens fonciers. Un thème présenté par Alain Slivinski.
La Cour constitutionnelle a donné gain de cause aux plus de 130 000 chasseurs que compte la République tchèque. Elle a refusé d'abolir une partie de la loi sur la chasse qui, selon un groupe de députés et sénateurs de droite, porte atteinte aux droits des propriétaires de biens fonciers. Ainsi donc, ce sont les chasseurs et leurs associations et organisations qui continueront à décider de la manière dont ils prendront soin du gibier ou de l'ouverture et de la fermeture de la chasse. Les chasseurs conservent aussi le droit de construire un abri pour le gibier, un mirador ou autres installations sur un terrain de chasse sans la permission du propriétaire. Ils peuvent aussi interdire l'accès des bois et forêts où se trouvent des chasses. Quel est l'argument qui a conduit la Cour constitutionnelle à cette décision? D'après les juges, la loi limite les droits des propriétaires, mais l'intérêt général, donc la protection du gibier et de la nature, est dans le cas présent plus important que l'intérêt individuel. La juge Dagmar Lastovetska a plaidé en faveur de la décision de la Cour en ces termes. La chasse doit être considérée comme une activité contrôlée et clairement orientée vers l'intérêt de la protection de la nature. D'après le sénateur et propriétaire de milliers d'hectares de bois et forêts, Karel Schwarzenberg, lui-même chasseur enthousiaste, les chasseurs sont devenus des souverains sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. L'administrateur de l'Union des chasseurs, Tchécomorave, Jaroslav Kostechka, affirme que les propriétaires de biens fonciers qui ne désirent pas voir de chasseurs sur leur terre peuvent toujours demander que leurs biens soient exclus des chasses répertoriées, mais il précise aussi. Si le propriétaire d'un terrain le demande, son terrain sera exclu des chasses, mais le propriétaire endossera alors toutes les responsabilités. Les chasseurs n'exerceront plus le droit de chasse, mais ne seront plus responsables des dommages créés par le gibier. En dépit de cette décision favorable de la Cour constitutionnelle, certains chasseurs plaident pour une loi encore plus rigoureuse. Pourquoi ? Les propriétaires peuvent chasser sur leur propre terrain, mais ils ne s'occuperaient pas du gibier, ne le nourriraient pas, s'intéressant seulement au profit de la chasse. Une affirmation qui n'est certainement pas valable pour tous.
À cause de la rénovation complète de ses locaux, le plus grand centre de soins médicaux spécialisé pour enfants dans le pays, l'hôpital de Prague-Motol, doit déplacer près de 300 petits patients et travailler dans des conditions aggravées. Le jour J pour l'hôpital, ce sera ce vendredi. Yarka Gisubilova pour plus d'informations.
L'hôpital pour enfants de Motol possède des centres spécialisés qui n'existent nulle part ailleurs dans le pays. Ils accueillent des enfants de toute la République tchèque et dans nombre de cas aussi de l'étranger. Cardiologie pédiatrique, traumatologie, hématologie, oncologie, unité de transplantation de la moelle osseuse et le centre spécialisé pour les nouveau-nés. Pendant un mois, leur fonctionnement sera maintenu, mais dans des conditions où la partie centrale de l'hôpital se transformera en grand chantier. Plancher, fenêtres, les escaliers, ascenseurs seront remplacés. À cause du bruit et de la poussière qui présentent un grave danger pour les petits patients, il a été décidé de les déménager. Pour un mois, 440 lits hospitaliers pour enfants seront fermés et 300 lits provisoires installés dans deux cliniques pour adultes. Toute l'opération débutera vendredi matin et sera terminée le même jour dans l'après-midi. Pour cette seule journée, les opérations planifiées seront limitées, mais après le 15 décembre, tout sera comme avant, assure le chef de la clinique d'hématologie et d'oncologie pédiatrique, Vladimir Komerska. Puisque cet hôpital est à plusieurs égards irremplaçable, il continuera à accueillir les cas urgents de toute la République et accorder les soins complets. L'hôpital est depuis plusieurs années en état critique, si on utilise la terminologie médicale. Les balcons ne sont pas accessibles depuis les années 1980, puisqu'ils risquent de s'écrouler. Une fois en hiver, il a fallu évacuer l'unité de soins intensifs à cause d'une panne des tuyaux. Une autre fois, c'était plus grave encore, car un morceau de plafond est tombé sous la table d'opération. Une minute après que le médecin avait terminé l'intervention, se souvient le porte-parole de l'hôpital, Eva Yurinova. La première et la plus importante étape de la rénovation de l'hôpital pour enfants de Motol, qui démarre ce vendredi, nécessitera 1,2 milliard de couronnes, 28 couronnes l'euro. Le ravitaillement complet de l'établissement est évalué à 6 milliards de couronnes et ne sera pas achevé avant 2012.
Depuis 5 ans déjà, on parle de la construction d'une station tchèque en Antarctique. Aujourd'hui, les travaux sont achevés et la station porte le nom du généticien tchèque du 19e siècle, Johann Gregor Mendel. Les premiers chercheurs tchèques y arriveront juste après Noël. Václav Richter.
Ce sera une expédition de 15 membres, biologistes, géologues, climatologues, etc. Josef Elster de l'Institut de botanique de l'Académie des sciences de Trebonne précise les objectifs de cette équipe.
Outre l'hébergement, notre station offre aussi la possibilité de travailler dans des laboratoires. Le mesurage est donc réalisé sur le terrain, mais on peut apporter certains objets aussi dans le laboratoire pour mesurer leurs paramètres. Comme notre station est neuve et tout le territoire est nouveau pour nous, l'un des objectifs des biologistes est évidemment d'étudier la biodiversité et l'écologie des organismes de ce continent.
Biologue est, évidemment, poznat diverzitu a ekologii těch organismů, které jsou tam doma.
Actuellement, c'est la période d'été au pôle sud et c'est donc la meilleure période pour la recherche. Le soleil en Antarctique ne se couche que pendant 2 heures par jour et les températures varient légèrement au-dessous de zéro. Il faut se dépêcher cependant car pendant les autres périodes, la température tombe jusqu'au moins 50 degrés. La station tchèque est un édifice en bois d'une superficie de 231 mètres carrés, bien protégée contre le froid et entourée de 9 containers. Elle se trouve sur l'île Ross, où il y a encore aujourd'hui les ruines des cabanes érigées par les expéditions des premiers explorateurs qui cherchaient à atteindre le pôle sud. De nos jours, il y a en Antarctique 36 stations polaires construites par ces États et les équipes de ces stations se spécialisent dans des recherches différentes. L'équipe de la station d'Argentine, qui est située à proximité de la nôtre, réalise un programme de recherche sur les transports dans les conditions polaires. Selon Josef Elster, non loin de la station tchèque, on trouve une curiosité, un poteau indicateur tchèque.
Ce poteau a été érigé par nos collègues qui construisaient la station et puisque c'était des originaires de diverses parties de République tchèque, le poteau indique la distance qui sépare la station, par exemple de la ville de Varnsdorf, de Prague ou de Brno. Tous ceux qui ont construit la station y ont donc laissé ce poteau indicateur.
Les premiers biologistes et climatologues tchèques chercheront les manifestations de la vie à des endroits qui étaient encore récemment couverts par un glacier et où apparaissent maintenant des mousses et des lichens.
Voilà, et c'est déjà la fin de ces faits-événements. Merci de votre attention. Restez encore un instant en notre compagnie pour la suite de nos programmes.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Les magnifiques chapeaux de la modiste Alžběta Oulíková, née en 1890 à Prague, complétaient souvent les exquises créations de la grande couturière Hanna Podolská. À l'opposé de cette dernière, dont les prix des tenues étaient exorbitants et pratiquement inaccessibles pour le commun des mortels, Alžběta Oulíková avait une philosophie différente. Sa devise était « jolie et à prix raisonnable ». Ainsi, on peut dire que le tout Prague achetait ses chapeaux, partant de la petite bonne, passant par la boulangère du coin, jusqu'à la richissime bourgeoise ou la vedette de cinéma. Ces chapeaux étaient toujours des modèles uniques, élégants, la qualité du matériel exquise à un prix intéressant. Dans son magasin, il y avait donc des articles pour les femmes de toutes les couches sociales. Alžběta Oulíková n'avait pas de formation professionnelle, mais elle était très créative, avec de bonnes idées en tête. La modiste arrangeait elle-même les vitrines de son magasin et dessinait les modèles de ses chapeaux. Elle s'inspirait également des magazines parisiens et rarement, il lui arrivait même de copier un joli modèle de Paris. Pour obtenir plus d'informations sur la remarquable modiste, j'ai contacté son petit-fils, maître Tomáš Oulík, que j'ai rejoint dans son cabinet de notaire au centre de Prague. Un bureau qui ne ressemble en rien à ces bureaux modernes et impersonnels sillonnés par l'électricité statique. Les meubles de qualité en bois portent le cachet d'un goût héréditaire. Dans certaines pièces, on retrouve les photos des années 20 et 30 des modèles de chapeaux de sa grand-mère. Maître Oulík, homme discret et galant, avec beaucoup de classe, a gentiment refusé de participer à notre émission, s'excusant qu'il n'aimait pas s'afficher en public, mais il salue cordialement nos auditeurs. Par ces paroles, Maître Oulík a fait revivre les temps des succès de sa grand-mère.
Thank you.
Alžběta Oulíková était issue d'une famille bourgeoise qui habitait au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans un quartier de Prague, près de la Vltava. Très souvent, les habitants étaient victimes de la hausse du niveau du fleuve. Jeune fille, Alžběta tombe amoureuse de Václav Oulík, fils de fermier et relieur de métier, qu'elle épouse pour lui donner 4 enfants. Vers la fin de la Grande Guerre, Alžběta achète avec son mari une maison à crédit, où plus tard elle installe son magasin. La boutique est divisée en 2 parties, l'atelier et le magasin. Le matériel, tel que le feutre, est livré de différentes régions de la Bohême. Le nombre des effectifs est de 14 modistes qui, en pleine saison, aident toutes à la vente des chapeaux, tellement il y a de clients. Alžběta a le sens des affaires. Elle donne beaucoup d'importance à la publicité et fait passer des annonces représentant les photos des modèles de ses chapeaux dans les magazines les plus prestigieux du pays. Par contre, son mari Václav n'est pas trop passionné par la création et la vente des chapeaux. Il s'ennuie. Sans hésiter, Alžběta lui achète un maraîchage où il cultive des fleurs et les vend. Mais finalement, Václav prend goût à la boutique et travaille au magasin de sa femme comme caissier. Madame Oulíková était catholique romaine, non pratiquante. Elle appréciait la bonne cuisine et pour différentes fêtes, elle confectionnait de très bons plats, souvent assistée par la cousine de la famille de son mari. À cette occasion, elle et son mari invitaient toujours une personne socialement faible. Une fois, le couple invita une mendiante. Ce jour-là, il n'y avait pas de viande au menu. La mendiante en fit la remarque, ce qui mit le mari d'Alžběta en colère. Par la suite, le couple n'invita plus aussi souvent ce genre de personnes. Et oui, faites-vous miel, les mouches vous mangeront.
Jeden den šťastný bývá, druhý den smutek má. Bolest potlačím, já se nevračím, i když se to někdy zdá. Já se k smutku nedám zlákat, smích jen proudí do mých žil. Kdybych měl hned nad vším plakat, v slzách bych se utopil. Proto jen stále zpívám, celý den radost mám. Je mi k úsměvu, je mi do zpěvu, že mám život hrozně rád.
La présidente de l'association des modistes tchèques, Alžběta Oulíková, est décédée en 1938 à Prague. Son fils venait d'être mobilisé. Václav, le mari d'Alžběta, vécut jusqu'à l'âge de 95 ans. Après le décès d'Alžběta Oulíková, le magasin fut repris par son mari Václav. Mais finalement, trop âgé, il ne pouvait plus s'occuper du magasin et en remit la gestion à son fils, le père de maître Tomáš Oulík. Lui-même se mit à écrire de jolis poèmes. Après la prise du pouvoir par les communistes en 1948, le magasin fut confisqué. Le père de maître Oulík continua de créer des chapeaux, mais pour les magasins d'État. Madame Alžběta Oulíková ne sortait jamais sans chapeau. Elle en portait même à la campagne. Par contre, son petit-fils Tomáš Oulík n'en porte jamais, estimant que c'est un accessoire obsolète. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention. Et nous attendons toujours vos idées, remarques et suggestions. Écrivez-nous, contactez-nous.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. tichými, víc po ničem netoužit, jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš. Se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern